Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
En fait, j'y connais rien, mais c'est aussi une force et je pense que c'est vraiment une expérience qui est ouverte à tous, tu vois. En fait, même si tu sais pas, aujourd'hui, tu n'as aucune notion, tu n'as jamais fait de travaux de ta vie, bah, c'est pas pour autant que tu n'en es pas capable.
Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans, après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants, prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des Clés du Gîte? Car en plus de ce podcast, les Clés du Gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram, et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute! Bonjour Sarah!
Bonjour Laura!
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Je suis ravie d'être là.
Certains te connaissent comme la spécialiste des babkas, d'autres adorent recevoir toutes tes recommandations de bonnes adresses en newsletter. Nombreux sont ceux qui te lisent sur le blog French Bon Temps, tandis que les derniers t'écoutent grâce au podcast La Bascule. Mais aujourd'hui, on va surtout te découvrir à travers une nouvelle activité, encore une, car tu as annoncé il y a plus d'une semaine qu'après plus d'un an de travaux, la maison French Bontemps ouvrait ses portes. Alors, toi qui cultives le fait de prendre son temps sans se presser, comment tu trouves le temps de faire tout ça?
Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, parce que j'aime beaucoup prendre le temps et en même temps, je suis, c'est vrai, un peu hyperactive. Et d'ailleurs, c'est vrai que la maison, bon alors maintenant on l'a un peu conçue comme un lieu où effectivement l'idée c'est de prendre son temps, de profiter, de lâcher prise surtout pour avoir beaucoup vécu en ville et notamment à Paris, ça change vraiment la vie d'être dans un cadre très campagne et très nature et pour autant ça n'a pas été de tout repos avant d'arriver à ce résultat, ça a été effectivement très très sport.
Ouais, on va détailler tout ça. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours? Parce que tu, avant de créer French Bontemps, je crois que tu étais à Paris et justement, tu as fait toi-même une bascule. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors c'est vrai que tu as assez bien résumé en introduction le fait que j'ai à peu près 1500 activités. Pour te résumer brièvement, moi j'ai passé quelques années en finance à Paris jusqu'à il y a à peu près un an et demi. Où effectivement j'ai décidé, ça concomitait un peu avec le lancement du podcast sur les changements de vie, justement la bascule que j'ai lancée, et c'était à la base pour trouver des réponses parce que ce travail ne me convenait plus vraiment, enfin j'arrivais plus trop à trouver le sens et la motivation. Et donc du coup j'ai lancé le podcast, et puis j'ai en parallèle du podcast effectivement comme tu le disais sauté le pas, et ça a coïncidé avec l'achat de cette maison. En fait ça faisait partie d'un tout, parce que généralement quand tu bascules ou quand tu changes de vie, ça va aussi avec un changement de cadre de vie. Donc la maison c'était aussi une pièce du puzzle, en fait c'était une envie de retrouver quelque chose de plus sain, un rythme de vie plus en accord en fait avec moi-même. Et donc on a trouvé cette maison dans le Perche, parce que j'habitais à Paris quand je travaillais en finance, et on pensait l'habiter au bout de 6 mois, et en fait pas du tout. En fait on a mis un peu plus d'un an de travaux, et en fait en faisant les travaux on s'est dit qu'effectivement on aimerait beaucoup que cette, parce que je dis on parce que en fait j'ai pas fait le projet toute seule, mais j'étais avec mon conjoint, donc on était deux sur le projet. Et on s'est dit que ça serait hyper chouette de pouvoir aussi la louer de temps à autre et qu'on ne soit pas les seuls à en profiter. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né le projet Maison French Bontemps, qui est effectivement une maison de campagne dans le Perche, qu'on peut louer le week-end ou la semaine pendant les vacances ou pendant toute l'année en fait.
Super. Donc, ta vie est répartie entre Paris et le Perche, parce que tu as encore un pied-à-terre à Paris, j'imagine ?
Oui, c'est ça. Effectivement, je fais des allers-retours aussi parce que, en fait, je travaille pour le podcast, mais je travaille aussi à côté sur des stratégies de communication, de brand content. Bon, c'est un peu des mots barbares pour dire que je travaille effectivement sur de la création de contenu pour des marques. Et donc, ça nécessite aussi que je fasse des petits allers-retours sur Paris. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'attaches. Et effectivement, je suis un peu entre les deux.
Comment vous l'avez trouvée, cette maison ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de visites ? Est-ce que ça a été... un long parcours pour trouver le coup de cœur ?
Alors, ça a été complètement improbable. Alors, moi, c'est vrai que je connaissais très, très peu, voire même pas du tout le Perche avant de trouver cette maison. En fait, c'est venu après le confinement. Donc, tu vois, comme quoi, c'est un catalyseur de beaucoup de choses. On a eu envie, on avait notre appartement à Paris et on avait vraiment envie d'avoir un coin nature où on puisse se ressourcer. Et on a commencé à regarder ce qui pouvait se faire pas trop loin, parce qu'on savait que de toute façon, on devait revenir de temps à autre à Paris. Et puis, mon conjoint travaille à Paris une partie du temps, donc on ne pouvait pas partir à l'autre bout de la France. Et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder un peu Rambouillet, Fontainebleau, etc. Et par hasard, on a trouvé une espèce de masse verte sur la carte en Normandie. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, on a découvert le Perche comme ça. Et donc, on a commencé à faire un week-end, deux week-ends, trois week-ends dans le coin pour découvrir. On a commencé à faire quelques visites comme ça, improbables. Et en fait, ça nous a tout de suite beaucoup plu, déjà parce que c'est un parc naturel. Donc c'est assez sauvage. Il y a eu un gros engouement depuis le Covid, mais en fait sinon c'est assez préservé comme coin, et l'immobilier, en tout cas nous quand on a acheté, était pas très cher, donc ça nous permettait d'avoir ce qu'on cherchait, quoi, du terrain, de pas être collé à tes voisins, d'avoir une maison avec un peu de place, et donc ça nous, ce coin-là nous plaisait pas mal. Et en fait on n'a pas visité tant de maisons que ça, on a dû en visiter 2 ou 3.
Ah oui.
Et ouais, franchement c'était assez rapide au final. Et alors quand tu vois les photos de comment c'était quand on a visité, je ne sais pas comment on a pu avoir un coup de cœur, parce que c'était une espèce de ruine, enfin quelqu'un y vivait avant nous, il y avait une personne âgée qui y vivait et qui était d'ailleurs décédée, pas hyper gay, mais donc quelqu'un y vivait, mais c'était d'une vétusté, tout était à refaire, et pourtant je sais pas, on a visité ça un samedi matin et en fait on est vraiment tombé sous le charme, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, on a eu un coup de cœur.
Mais vous êtes projeté très facilement alors ?
Bah oui, mais ce qui est fou, c'est que pourtant c'était assez difficile, parce qu'en plus on a visité, ça devait être octobre-novembre, donc tu vois, c'est pas une période sympa dans le Perche. Enfin, les arbres sont un peu décharnés, il n'y a pas beaucoup de lumière.
Oui, c'est gris.
Voilà, la maison était vraiment... Enfin, il y avait de l'humidité, donc tu vois, il y avait des endroits où il y avait des taches sur les murs, ça n'avait pas été refait depuis, depuis 30 ans, quoi. Donc vraiment... Ouais, il fallait vraiment avoir beaucoup d'imagination.
Et vous êtes passée par une agence ou tu as pu trouver ça sur Le Bon Coin ou un site entre particuliers ?
Non, alors on avait fait un peu un mix de plein de choses et là en l'occurrence c'était via une agence, on avait trouvé, je crois qu'on avait trouvé l'annonce sur Le Bon Coin, mais c'était une agence qui l'avait postée. Mais oui, enfin généralement c'est difficile de trouver dans ce genre de région, c'est difficile de trouver de particulier à particulier et je pense que là en plus avec le Covid il n'y a quasiment plus rien à vendre, donc effectivement c'est très très compliqué.
En dehors du choix, on va dire, de la superficie, du terrain, etc., quels étaient les autres critères ? Parce qu'à ce moment-là, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas l'idée d'en faire une maison après de vacances pour d'autres familles.
Oui, c'est vrai que le projet était assez flou à la base. On avait envie, en fait, on avait envie d'un endroit pour nous et en même temps, on pensait déjà à une manière dont on pourrait le partager, mais effectivement, ce n'était pas très défini. On voulait surtout, effectivement, de la place. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de critères qui sont venus après, mais que bon, je pense que maintenant, si on devait choisir à nouveau une maison, on ferait hyper gaffe à tout ça. Mais à l'époque, tu vois, ne serait-ce que avoir internet, on n'y a même pas pensé, alors qu'en fait, c'est quand même assez important parce que c'est une zone blanche. Enfin, il y a beaucoup de zones blanches dans le Perche, donc il y avait ça, être assez proche d'une gare, pareil, tu vois, on n'avait même pas regardé, alors qu'en fait, on est à 15 minutes d'une gare directe pour Paris. Mais c'est vrai que pareil, il y a des coins qui sont hyper reculés, donc en fait, je pense qu'il y avait plein de critères. Auquel on aurait dû penser et qu'on n'a pas du tout eu en tête à l'époque. Pour nous, c'était juste, effectivement, je pense qu'on était vraiment mus par le besoin de campagne, de verdure, de nature. Et en fait, ça a un peu occulté tout le reste.
Ça a été compliqué de faire l'acquisition ? Est-ce que ça a été long ? Est-ce qu'en quelques mois, sans obstacle, on va dire, vous avez pu faire la signature, le compromis, etc.
Comme toute acquisition immobilière, c'est quand même assez long. Hein. Je crois que, ouais, on a visité en octobre et on a dû vraiment avoir les clés en mars, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, mais après, non, globalement, il n'y a pas eu trop de problèmes. Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait de. On aurait dû faire beaucoup plus de checks, je pense, tu vois, même en termes de structure, enfin on n'a vraiment pas regardé grand chose.
Ouais, t'es pas venu avec un entrepreneur pour qu'il puisse te briefer peut-être sur certains travaux à prévoir, des choses comme ça.
Ouais, exactement, et ça je pense qu'on a vraiment eu de la chance là-dessus parce que ça aurait pu vraiment mal tourner et c'est un truc que je conseille, même si moi ça m'arrive à nouveau d'acheter, je pense que c'est un truc que je ferais. Parce qu'en fait, après, quand tu te lances dans les travaux, tu te rends compte à quel point il peut y avoir des choses que t'as pas du tout estimées.
Tout à fait. Mais tu sais, même quand on vient avec un artisan, parfois, y a que quand tu commences les travaux, parce que bah, je prends mon exemple, où quand on démontait le sol ou du toit, que là, tu vois l'état parfois pas génial de certains trucs que tu vois pas. En fait, quand tu visites, t'as beau visiter 10 fois, tu seras jamais au cœur de la maison, on va dire. T'es pas dans les murs, dans les trucs comme ça, donc c'est toujours un petit peu... Je pense qu'il faut toujours se laisser le fait qu'il y aura des surprises.
Oui, mais ça c'est vrai qu'on a eu la chance de ne pas avoir été trop juste financièrement parce que
ouais.
Ça c'est aussi un gros sujet. Hein, parce que même si tu prévois assez précisément tes travaux, c'est vrai qu'il y a toujours des frais qui se rajoutent. Enfin, moi je pense notamment on a dû par exemple refaire la fosse septique, on a dû faire un drain autour de la maison parce que c'était très humide. Donc c'est des petits coups comme ça cachés que tu ne peux pas forcément... voir quand tu visites,
ouais,
ou anticiper, ouais. Mais qui mine de rien se rajoute à la fin sur l'addition.
Mmh, tout à fait. Et que t'as pas envie, quoi, que tu préférerais mettre dans le mobilier ou la déco.
Exactement.
Vous vous êtes fait accompagner pour ces travaux ? Est-ce que t'avais pris un maître d'œuvre, un architecte ?
Alors, nous, comme on voulait faire une extension, qui est une extension bois et que c'était assez... assez technique, on a pris un architecte pour cette partie-là, donc qui a fait, mais qui a juste fait les plans, qui n'a pas fait le suivi de travaux. Mais en fait, c'était quand même un passage obligatoire, ne serait-ce que pour déposer les permis, etc. Donc, on a pris un architecte pour cette partie-là. En revanche, pour tout le reste, c'est nous qui avons soit suivi les travaux, soit fait les travaux.
Et oui, vous avez fait une grande partie vous-même. Est-ce que c'était, au-delà de l'aspect budget, une envie aussi de votre part de vous confronter à ça, de vous lancer dans la rénovation ?
Alors, pas du tout. On a commencé, on ne savait rien faire. Hein, vraiment, à Paris, quand on avait acheté notre appart, on avait dû changer la cuisine et on l'avait fait faire par quelqu'un parce que ça nous semblait le bout du monde. Donc vraiment, on partait de zéro. Donc c'était pas du tout une volonté. D'ailleurs, nous, quand on a acheté la maison, on pensait juste qu'il faudrait faire un petit coup de peinture et que ce serait bon. Donc on était vraiment complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bien souvent, c'était pas forcément une volonté de notre part de faire les travaux nous-mêmes. C'est juste qu'il y avait pas de main-d'œuvre. Ou alors que les artisans étaient dispo un an après et en fait du coup ça bloquait tout le chantier et donc il y a vraiment quelques postes comme ça où on s'est dit bah en fait non on peut pas attendre un an pour continuer la suite donc du coup bah on va s'y mettre nous quoi donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a fait un peu parce qu'on était obligé de le faire et pas forcément parce que il y avait une question de budget en fait il y avait une question aussi de budget
et de timing mais parce
qu'il y avait aussi c'est ça.
Et justement, les artisans, comment tu les as trouvés? Parce que vous n'aviez pas de, bah, de contact sur place. Est-ce que c'est éventuellement l'architecte qui a déployé un peu son réseau ou Google a été ton ami?
Non, effectivement. Alors l'architecte, comme il était basé sur Paris, il ne nous a pas vraiment aidé là-dessus. Mais on a vite compris, bah, quand tu achètes comme ça dans des petits villages où, où tout le monde se connaît, en fait, tu vois assez vite que, bah, il faut commencer à faire partie de ce réseau. Donc, je crois que l'agent immobilier nous avait donné un premier contact, qui nous en a donné un deuxième, etc. Les voisins aussi nous ont donné des contacts. Donc, en fait, c'était vraiment que du bouche à oreille. On a trouvé vraiment comme ça. On a, je crois qu'on n'a même presque pas cherché sur Google.
Oh ben c'est super parce qu'effectivement, je pense que c'est des très bonnes recommandations quand on peut te dire « Ah ben nous, on a refait ça ».
J'allais dire, ça ne nous a pas empêché d'avoir des déconvenus. Hein. On a
oui,
eu,
ça c'est obligé.
Un électricien qui venait une fois tous les 6 mois. On a eu un maçon qui nous a dit « Ok » puis qui n'est jamais venu. Enfin, on a quand même eu malgré tout des mauvaises surprises. Mais bon, ça je pense que c'est dans chaque travaux, il y a forcément des choses qui se passent bien et des choses moins bien.
Oui, malheureusement. Vous vous étiez donné un certain délai pour réaliser l'entièreté des travaux et aménager dans la maison.
Oui, mais alors comme je te disais, on était vraiment à côté de la plaque parce qu'on pensait qu'en 6 mois... en fait, donc, on a eu les clés en mars 2021, je crois. Et on pensait qu'en juillet 2021, ce serait OK.
Ah oui.
Et en fait, pas du tout. Enfin, vraiment, parce que déjà, on se rendait pas compte de rien que déposer le permis pour créer l'extension. Il nous a fallu quand même plusieurs mois. Après, entre on a le permis et la personne peut venir construire, et il s'est passé encore 8 mois. Donc, en fait, c'était des délais dont on n'avait pas du tout idée. Et nous, on pensait vraiment que tout allait s'enchaîner de manière hyper homogène et de manière harmonieuse. Et en fait, non, parce que parfois, comme il y a un artisan qui ne peut pas venir avant 6 mois, du coup, le prochain ne peut pas commencer avant que l'autre soit venu. Enfin, c'est un espèce de Tetris comme ça. Et donc, parfois, il peut se passer effectivement 6 mois où du coup, il n'y a rien qui avance, mais tu n'as pas le choix. Et après, tout se débloque au bout de 6 mois et rebelote. Enfin, c'est assez frustrant, mais je trouve qu'en même temps, ça t'apprend pas mal de patience, tu vois, de faire des travaux.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit aussi en pensant chantier, travaux, rénovation. Patience. En fait, ouais, rien ne dépend de toi, à part si tu veux travailler dans la maison et toi-même faire quelques réalisations. Mais sinon, tu es vraiment dépendant des artisans, de leur bon vouloir, de leur planning. Et voilà, tu vois, j'attends un menuisier depuis début novembre. Il n'y a rien à faire, quoi. Tu peux les harceler et s'ils ont décidé de faire d'autres chantiers, ils feront d'autres chantiers, quoi.
Exactement.
C'est frustrant. Mais après, ce qui était en votre faveur, c'est que vous n'aviez pas un besoin ultime de vous y installer, si je ne me trompe pas, parce que vous aviez quand même votre pied-à-terre et votre résidence principale sur Paris.
Oui, c'est vrai qu'on avait cette chance-là de... Bah, d'ailleurs, ça nous est arrivé le premier hiver où vraiment c'était difficile parce que tout était en poussière, en travaux, ça n'avançait pas parce que les artisans ne venaient pas. Et c'est vrai qu'on s'était dit, bon, la chance qu'on a, c'est qu'au moins, on n'est pas obligé de vivre dedans à plein temps. Donc ça, c'était quand même une soupape de pouvoir rentrer de temps à autre à Paris. Mais en même temps, on voulait quand même que ça avance et que ce soit fini parce que on avait un prêt et on voulait aussi à un moment être un peu au clair sur les travaux, arrêter d'avoir des coûts supplémentaires. Donc non, c'est vrai qu'on n'avait pas d'urgence, mais t'as quand même ce truc de dire, bon, on paye notre crédit, à un moment, il faut aussi que bah, que les travaux finissent, qu'on puisse aussi y vivre et potentiellement de temps à autre la louer.
L'idée de la louer, alors, est-ce qu'elle s'est un peu plus concrétisée au moment des travaux ? Est-ce que c'est venu davantage une évidence ?
Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont... Je sais pas, qui... parce que je partageais beaucoup sur les réseaux l'avancée des travaux. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui disaient « mais j'aimerais vraiment venir ». Enfin, il y avait vraiment un engouement que j'aurais pas du tout imaginé. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit « mais en fait, il faudrait vraiment en faire profiter les gens, la louer quand nous, on n'y est pas ». Après, je me voyais pas faire de la chambre d'hôte parce que c'était très prenant et que chacun, on avait aussi nos boulots respectifs. Donc, c'était pas quelque chose qu'on avait envisagé. Mais on avait ce côté un peu, on avait envie de partager, rencontrer des gens et en même temps faire profiter de la maison. Donc c'est vraiment venu parce qu'on a eu des demandes. Et je me rappelle, c'était assez drôle parce qu'on venait de commencer les travaux, ça faisait 4 mois. Et il y avait déjà quelqu'un qui m'avait dit, est-ce que je peux louer pour le mois de juillet ? Enfin, c'était assez fou. Et donc c'est comme ça que petit à petit, une idée nous est venue et on s'est dit, bah en fait... comme on ne va pas y être tout le temps, il faut juste qu'on la loue quand on n'y est pas. Et voilà.
C'est un super compromis. Et pour tout ce qui est aménagement, décoration, choix des revêtements, des choses comme ça, est-ce que là aussi tu t'es fait aider par peut-être un architecte d'intérieur, une décoratrice ? Est-ce que c'était très clair pour toi ce que tu voulais, les coloris que tu souhaitais, etc.
Alors non, on a fait ça nous-mêmes et je dois dire que du coup, bah, y a eu beaucoup d'erreurs.
Ah ouais ?
Il y a des choses. Non, mais c'est juste des choses où tu dis, bon, si j'ai une maison à refaire, je réutiliserai plus carrelage, ou tu vois des trucs dans la pratique où tu te rends compte qu'en fait c'est beau sur Pinterest, puis quand tu le mets chez toi, c'est hyper chiant à nettoyer. Enfin, tu vois des petits trucs comme ça où bon, tu te dis ouais, ça on évitera la prochaine fois, mais après non, sinon c'était vraiment je me suis beaucoup inspirée effectivement de ce que tu trouves sur les réseaux, sur Pinterest, sur Instagram, et on voulait garder ce côté aussi un peu campagne, donc on a essayé de trouver des couleurs, tu vois, moi j'ai mis beaucoup de vert par exemple parce que je trouvais que c'était pas mal dans une maison de campagne d'avoir des dégradés de vert, et après on a essayé aussi, on s'est fait conseiller dans la région sur des matériaux type, tu vois, dans notre salon, on a mis de la chaux naturelle parce que ça fait respirer, puis en même temps, c'est un côté très esthétique. On a essayé de choisir aussi des parquets massifs pour les chambres. Tu vois, on a quand même essayé de mettre à chaque fois des matières de qualité et des peintures de qualité, etc. Parce que ça nous semblait quand même important, tu vois, quand tu te lances dans une rénovation comme ça, dans une maison de campagne, c'est un peu dommage de mettre que des matériaux, tu vois, on n'allait pas mettre du lino, donc on a quand même fait une recherche de couleurs et de matériaux pour rester quand même en harmonie avec la maison.
Oui, et pas dénaturer les lieux non plus, rester en cohérence effectivement avec son histoire aussi. Est-ce que vous avez dû toucher à la circulation, aux pièces, ou est-ce qu'elle était très bien répartie ?
Non, effectivement, on a rajouté... En fait, en bas, on a cassé tout un pan de mur pour faire un couloir, pour casser un peu, effectivement, comme tu dis, la circulation. On a aussi... Il y avait un garage et on a dû... on a tout réhabilité pour en faire une chambre. Donc, on a dû aussi faire une ouverture de la maison vers le garage. Et à l'étage, on a créé... il y avait quasiment rien. À l'étage, c'était une espèce de grande pièce. Il y avait juste une chambre. Et donc, on a recréé... une salle de bain, deux salles de bain et une chambre. Donc, tu vois, on a refait des cloisons à l'étage, de la plomberie, etc. Donc, non, il y a eu quand même pas mal de gros œufs.
Ah oui, quand même, ouais. Et quelle a été la partie que tu as préférée en termes de travaux ?
Écoute, en fait, on s'est plutôt bien complété avec mon conjoint parce que lui, il adorait faire les trucs type gros œuvres, tu vois, détruire des murs, ou construire des murs. Et moi, en revanche, j'étais beaucoup plus sur la partie peinture, un peu truc de fille, en fait.
Dans les détails. Ouais, lui, plus dans ce qui se voit d'un coup, et toi, plus dans les détails et la finition.
Et ouais, parce que lui, il me disait, non, mais la peinture, ça me rend dingue, je trouve ça monotone, etc. Alors que moi, je pouvais faire ça, tu vois, 2-3 heures avec un podcast, et franchement, je trouvais ça plutôt apaisant. Donc non, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là, de voir le truc se transformer petit à petit Ouais, avec la peinture, le ponçage, tous ces trucs qui sont assez quand même pénibles à faire, mais je trouve ça assez satisfaisant en fait.
Ouais, tout à fait. Je pense que je suis de ton côté aussi. Alors, de par ton activité aussi de créatrice de contenu, tu voyages et tu, je pense, as eu l'occasion aussi d'aller dans des gîtes, des chambres d'hôtes. Peut-être que tu le faisais aussi à titre particulier déjà?
Oui, je le faisais beaucoup. En fait, quand on habitait à Paris, moi, je supportais plus, en fait, comme toute la semaine, déjà, j'étais enfermée au bureau, je rentrais super tard. On avait un appartement qui était assez petit. Du coup, tous les week-ends, on s'organisait pour partir. Donc à droite à gauche et donc j'ai fait comme ça beaucoup de lieux, beaucoup de gîtes, beaucoup de chambres d'hôtes, etc. Après on a un peu mis entre parenthèses avec les travaux parce que du coup tu pars moins.
Bien sûr.
Et là comme ça commence un peu à arriver à la fin, effectivement je me dis que j'aimerais reprendre quand je peux les petits week-ends vadrouille pour découvrir des nouveaux lieux.
Ouais. Et est-ce que ça t'a aidé à justement te projeter et imaginer un petit peu la maison telle que tu aimerais en faire profiter d'autres voyageurs ?
Oui, c'est vrai qu'il y a des façons. Enfin, quand tu voyages comme ça en gîte ou en chambre d'hôte, il y a des endroits qui te marquent ou déjà qui peuvent t'inspirer déjà dans l'esthétique. Enfin, nous, je sais qu'il y a plein de choses qu'on a un peu piquées à droite à gauche en disant mais tu te rappelles ce truc-là ou la cheminée ou etc. Parce qu'on avait vu des choses. Et après, c'est vrai que dans la façon aussi d'accueillir les gens, tu peux t'inspirer de choses. Moi, je sais que j'aime assez peu quand je sens trop le côté impersonnel, commercial, où il faut arriver à telle heure, partir à telle heure, etc. Et donc, je m'inspire beaucoup d'endroits où c'est un peu plus flexible, où c'est un peu plus comme à la maison. C'est pas toujours évident de le mettre en place, hein, parce qu'il y a des questions logistiques, mais en tout cas, je trouve ça cool d'arriver et te sentir comme chez toi. Par exemple, là, dans la maison, on est en train de travailler avec les voisins pour, tu vois, mettre des paniers. On a des voisins maraîchers, donc de se dire par exemple, tu vois, on pourrait mettre des paniers gourmands, enfin, tu vois, faire en sorte que quand tu arrives, ce soit pas juste impersonnel et que voilà, tu te sentes aussi un peu comme si tu arrivais dans une maison de vacances dans ta famille.
Ouais, tout à fait. Et que la maison, elle vive d'elle-même aussi, qu'elle est sa propre entité. L'appeler la maison French Bontemps, ça c'était une évidence ou tu t'es quand même posé la question de lui donner un autre nom?
Non, pour le coup, c'est vrai que c'était un peu une évidence parce que comme j'avais beaucoup communiqué dessus sur mon propre compte et que en fait les valeurs c'était un peu les mêmes quoi, de prendre son temps, de profiter, de renouer avec beaucoup de choses. En fait, ouais, c'est un peu venu spontanément. On va l'appeler Maison Frère de Montant parce que c'est en fait on aurait pu trouver autre chose, mais non, c'était vraiment effectivement c'était assez spontané.
Oui, mais je trouve ça très logique, donc moi aussi, j'aurais pas vu d'autres noms que ça. En ce qui concerne les démarches de déclaration à la mairie, des choses comme ça, est-ce que ça a été un peu galère pour t'y retrouver? Est-ce que tu as peut-être demandé de l'aide auprès d'un expert comptable ou tu as trouvé ça très facile?
Non, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir un expert comptable que j'avais par le passé, parce que j'avais déjà acheté... un bien immobilier pour lequel il m'aidait, mais effectivement, heureusement, parce que moi j'aurais été complètement perdue dans le choix de la forme, et puis dans toutes les démarches, en fait, ce qui est difficile aussi, c'est de choisir la forme qui est adaptée à ton utilisation, à tes revenus, à ce que tu vas en faire, parce que tu te rends assez vite compte que si tu choisis le mauvais format, ça peut être hyper préjudiciable pour toi ou tu peux payer beaucoup plus d'impôts que ce que tu devrais payer. Enfin, il y a vraiment beaucoup de critères qu'il faut ajuster. Seul, on n'aurait pas forcément trouvé la bonne solution qui était adaptée à ce qu'on voulait faire.
Moi, je recommande tout le temps de se faire accompagner parce qu'effectivement, il y a tellement de particularités dans le choix du statut juridique, selon les projets, ne serait-ce que de famille, selon le patrimoine que chacun peut avoir, des choses comme ça. On ne se doute pas à quel point ça peut influencer vers un modèle plutôt qu'un autre.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est vrai pour... pour tout ce qui concerne la location, mais c'est aussi vrai quand on veut lancer son entreprise, parce que là, j'ai eu le même souci. C'est vrai que le choix du statut, en fait, je me suis rendu compte que si j'avais choisi autre chose, En fait, ça aurait pu être diamétralement différent. Et parfois, j'entends des gens qui me disent, mais non, mais c'est impossible, ou je paye beaucoup trop de ci, ou beaucoup trop de ça. Et en fait, du coup, je me dis, mais ça se trouve, c'est juste que le statut qu'ils ont choisi n'est pas du tout adapté à ce qu'ils font. Donc, je pense qu'effectivement, ça se retrouve partout. Et faire appel à un expert comptable, pour moi, c'est vrai que c'est peut-être un coût, mais je trouve que c'est assez vite rentabilisé.
Moi, je suis d'accord. Souvent, je préfère dire que c'est un investissement qu'une dépense parce que tu vas vraiment bénéficier d'une expertise que, bon, à moins que tu aies toi-même fait un master ou des choses comme ça, mais voilà, c'est tellement spécifique qu'il ne faut vraiment pas penser qu'on peut mieux savoir qu'un expert comptable. Et puis après, de toute façon, pour le suivi de l'activité, pour pouvoir se faire aider dans le développement et peut-être voilà, de nouvelles idées et un agrandissement ou faire quoi, savoir qu'on peut recruter, commencer à se verser un salaire, etc. On ne sait pas forcément lire les chiffres, donc autant être aidé et avec quelqu'un qui sait faire tout ça pour nous.
Oui, exactement. Puis je trouve que c'est un support agréable parce que moi je sais que parfois je lui pose des questions, il y a aussi une dimension conseil parce que sur internet on trouve pas forcément tout et puis il y a un peu tout et n'importe quoi, donc il y a aussi ce côté là qui est agréable. Et puis il va rappeler les dates importantes à ne pas oublier, etc. Donc c'est vraiment un support ouais, que je recommande.
Ouais, c'est rassurant aussi. Il y a des fois où je me revois stressée par rapport à certains choix financiers et je me suis dit, ah mais si mon expert il valide, si tu vois, si on a monté le dossier tel quel ensemble, tu peux te reposer sur son professionnalisme et te dire, bon ok, allez, je souffle un peu, c'est que c'était la bonne décision, tout repose pas sur tes épaules non plus, tu peux te dire, bon, je fais confiance à cette personne.
Oui, je suis d'accord.
Et du coup, bah alors j'imagine que tu te déclares en loueur meublé non professionnel parce que je pense pas que tu veuilles faire ça toute l'année puisque ça doit rester aussi un endroit que vous allez où vous allez vivre et que tu vas partager avec ta propre famille.
Oui, c'est ça, exactement.
Super. Et alors concrètement, après, comment tu le commercialises ? Est-ce que tu as choisi des canaux de distribution, on va dire classiques, tels que Airbnb, Booking ? Est-ce que tu préfères être sur des plateformes plus indépendantes, plus élitistes ? Ou tu t'es dit, ben, je vais peut-être d'abord essayer sur ma notoriété sur Instagram et voir en direct si ça peut se louer.
Effectivement, l'idée à la base c'était de le louer parce que en fait nous c'est vrai que le profil de location qu'on a c'est qu'on veut pas forcément louer à outrance tous les week-ends. En fait,
bien sûr.
On veut louer de temps à autre à des gens idéalement qu'on connaît ou des amis d'amis, etc. Donc effectivement j'ai créé le compte pour sur Instagram pour avoir en priorité des gens qui sont de la communauté ou qui connaissent, qui ont suivi les travaux, etc. Parce que je trouve que c'était sympa comme approche. Donc idéalement, si on peut avoir que des réservations via ce canal, moi ça me va très bien. Et ensuite, on a quand même créé une annonce Airbnb à titre vraiment parce qu'on s'est dit qu'on voulait le faire par curiosité et puis voir un peu comment se positionner par rapport aux autres, etc. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a plutôt refusé qu'accepter les demandes parce que parce qu'en fait, on se rend compte que quand t'as fait les travaux pendant un an et demi, que c'est ton bébé, etc., t'as pas non plus envie de louer à n'importe qui, tu vois, t'as envie de le louer à des gens qui connaissent le projet, qui vont être respectueux du lieu, etc. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu un profil particulier. Donc idéalement, on privilégie vraiment les canaux en direct si des gens nous contactent par mail ou par Instagram. Et après, on a effectivement une annonce Airbnb où, pour le coup, c'est nous qui acceptons les réservations ou pas et on fait vraiment ça avec parcimonie.
Ouais, tu peux filtrer comme ça, effectivement, que ce ne soit pas des personnes qui reconnaissent pas tout le travail qui a été accompli et qui savent peut-être même pas l'histoire derrière, qui veulent juste une maison isolée pour faire la fête.
Exactement.
Aujourd'hui, tu peux accueillir. Ah ouais, non, mais ça, c'est la hantise de tout le monde. Tu peux accueillir jusqu'à 8 couchages, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Là, on a 8 couchages, vrais couchages. Et après, si vraiment nécessaire, on a un couchage d'appoint. Et puis après, il faut aussi, parce que moi, ça m'est déjà arrivé à titre perso de louer des maisons où ils disent que, par exemple, c'est pour 8 ou 10, mais dans le salon, ça n'a pas une capacité de 8 ou 10 personnes. Donc, en fait, c'est un peu compliqué, quoi. Même s'il y a beaucoup de chambres, après, dans les pièces communes, si tu t'y retrouves pas, c'est pas très agréable. Donc, on a aussi fait attention à garder une capacité qui pouvait aussi être adéquate pour le salon, la cuisine, la salle à manger.
Quand vous l'avez meublé, est-ce que tu avais cette dimension-là d'en faire un jour une location? Est-ce que ça a été pris en compte dans tes choix?
Alors, en fait, moi, j'ai...
Ouais. Pour, je pense, la literie, les canapés, les choses... Les équipements dans la cuisine.
C'était vraiment le gros dilemme de ces derniers mois parce que d'un côté, on avait ce sujet de « Attends, on va le louer, donc faut pas non plus mettre des choses trop fragiles ou trop chères, etc. » Et en même temps, il y avait ce truc de « Ouais, mais c'est aussi notre maison à nous. » Et puis quand il vient, t'as aussi envie d'avoir des beaux matériaux, des choses de qualité. Donc, c'est toujours été un peu le côté schizophrène. Et tu vois, par exemple, dans la cuisine, on a mis du béton ciré tout en sachant que effectivement c'était un risque parce que quand tu loues et que tu as mis du béton ciré, c'est clairement pas très très malin, mais en même temps c'était un truc qui moi me faisait plaisir et puis je me suis dit on verra, ça se trouve les gens sont pas aussi aussi peu attentionnés que ce qu'on pense. Donc voilà, c'est vrai que c'est à chaque fois une alternative entre les deux. On a mis quelques matériaux un peu fragiles. Et je pense qu'on verra, on se laisse 1 ou 2 ans pour faire le point et se dire si vraiment ça va pas, on refera les choses autrement. Mais je trouvais ça aussi important d'avoir un endroit qui est beau, esthétique, fait avec des beaux matériaux, parce que pour avoir fait des maisons de location où tu vois que c'est fait pour la location et t'as que des matériaux un peu cheap, c'est pas non plus très agréable, quoi.
Non, je suis d'accord. Non, puis ça fait partie de la promesse que tu fais aussi à travers cette maison-là. C'est une certaine déco, c'est justement certains matériaux, certaines atmosphères, etc. Donc, il faut rester dans la logique. Le choix de la literie, ça a été compliqué? T'as voulu travailler avec un fournisseur en particulier?
Alors, écoute, nous, on a eu assez de chance là-dessus parce que quasiment toute la literie était déjà dans la maison quand on a acheté et de très bonne qualité.
Ah, super.
Parce qu'en fait, c'était une personne âgée qui avait acheté des matelas, je pense, pour ses petits-enfants quand ils venaient une fois par an. Et en fait, ils n'avaient quasiment jamais servi. Je crois même qu'il y en avait un qui était encore emballé. Donc, on a eu assez de chance là-dessus. Je crois qu'on a... Est-ce qu'on a racheté ? Non, je ne suis même pas sûre qu'on ait dû racheter en matelas. Mais pour le coup, ils sont effectivement assez confortables.
Super.
Donc, c'était un non-sujet pour nous.
Ça, c'est vraiment top. Parce que ça aurait pu faire de longues, longues discussions.
Oui.
En linge de maison, tu as choisi de t'équiper auprès de qui?
Alors, écoute, j'ai eu un gros débat là-dessus. Et je ne sais pas si tu connais Maison Belle et Stew.
Bien sûr.
En fait, on est devenus assez proches. C'est drôle, c'est la magie d'Instagram, comme ça tu rencontres des gens que tu ne connais pas. Et donc on avait eu un gros débat sur le linge de maison parce que moi j'étais vraiment, encore une fois, je voulais plutôt choisir quelque chose de qualité, j'avais vraiment envie de choisir des draps en lin. Et tout mon entourage me disait mais attends, si tu loues, tu vas pas prendre des draps en lin, etc. Et donc je lui en avais parlé et elle m'avait dit mais moi je ne prends que des draps en lin parce que 1, c'est hyper résistant, 2, tu n'as pas à les repasser. Et 3, effectivement, les gens ne salissent pas autant que ce que tu penses. Donc, en fait, c'est un très bon choix. Donc, je suis partie là-dessus. On n'a pris que des draps en lin chez La Redoute, je crois. Ils ont pas mal de couleurs.
Super. Du coup, tu as pris l'option « je repasse pas ».
Oui, en fait, c'est vrai que j'avais pas du tout... heureusement que, du coup, Maison Belle et Stew m'a fait la remarque parce que j'avais pas du tout pris en compte ce paramètre. Et c'est vrai que quand tu loues, peut-être, je sais pas, 2 week-ends par mois et que tu dois te faire le repassage des 8 couchages, effectivement, je pense que ça te prend un temps fou. On en est hyper satisfait parce que par rapport, on a aussi des draps coton, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même rendu.
T'as acheté combien de jeux pour te dire que tu pouvais faire un roulement sans être dans le rush?
Pour l'instant, on en a 2 par couchage. Donc, je pense que c'est... Enfin, pour être vraiment large, il faudrait en acheter un 3e. Mais voilà, pour l'instant, ça tourne comme ça.
Et comment tu vas faire l'entretien? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas déléguer ou tu prévois de prendre en charge les machines?
Alors, on a quelqu'un qui... on a déjà une femme de ménage qui vient toutes les semaines et qui serait tout à fait OK pour s'occuper de cette partie-là. Après, on se dit que dans ce genre de location, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui t'accueille qui t'explique un peu, parce que c'est pas comme quand tu vois un appartement, tu vois, il y a beaucoup de choses à savoir, puis c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qui t'accueille, donc on n'exclut pas de faire l'accueil nous-mêmes, en tout cas au début. Voilà, mais effectivement, le ménage, je pense que c'est quelque chose qu'on va déléguer et que notre femme de ménage sera ravie de faire.
D'accord. C'est une personne qui est locale, en fait, c'est qui habite pas loin.
Oui, c'est quelqu'un de la région qui habite à 10 minutes. Et donc, du coup, elle nous a toujours dit qu'elle était tout à fait ouverte pour venir dès qu'elle est disponible.
Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà des réservations ?
Oui, on a déjà des réservations. Et du coup, ça va être un peu... Alors, nous, pour te résumer brièvement, on n'ouvre pas l'hiver parce que... pour l'avoir vécu, nous, c'est une région où il fait très froid. Et donc, c'est compliqué d'optimiser le chauffage, tu vois, surtout quand tu connais pas. Nous, par exemple, on a des poêles à granules. C'est compliqué de louer l'hiver parce que les gens sont pas très familiers avec ce mode de chauffage. Et tu peux chauffer de manière pas du tout adaptée, etc. Donc, en fait, on s'est dit c'est trop compliqué l'hiver. Donc on ouvre à partir de mars à peu près, quand ça commence à être un peu plus tempéré, et donc on a déjà quelques réservations pour quelques week-ends, et on a une semaine aussi de réservée en août de mémoire, et voilà, et je pense que du coup ça va se faire naturellement, on a déjà aussi beaucoup accueilli d'amis, de famille, etc. Donc après, même si c'est pas la même chose quand t'accueilles des gens que tu connais pas, mais disons qu'on s'est déjà pas mal rodé sur les bêta-testeurs.
Ça, c'est bon. C'est le meilleur rôle, ça, d'être bêta-testeur.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, tu commencerais en mars et quoi ? Jusqu'en octobre ? Fin septembre, quand il recommence ?
Oui, c'est ça. Okay. C'est ça, fin septembre, début octobre. Faut voir en fonction de la saison, mais c'est à peu près ça. Parce qu'après, je crois qu'il y a les vacances de la Toussaint. Je pense qu'on arrêterait. Ouais, on arrêterait après la Toussaint, je pense. Ça dépend parce que là, par exemple, cette année, en novembre, on mangeait encore dehors le midi. Donc, en fait, ça dépend vraiment du temps qu'il fera.
Oui, on parle toujours de l'été indien. C'est vrai que maintenant, le beau temps et la chaleur se prolongent très largement sur le mois d'octobre. Ça fait déjà 2-3 ans que ça se confirme. Et ça reste agréable. Nous, je sais qu'on laissait encore la piscine ouverte, tu vois. On la refermait que vraiment à la fin du mois. Et les gens se baignaient encore en octobre. Donc,
ah, génial.
Ça, ils profitaient bien. Comment tu vas organiser au niveau de tes affaires personnelles ? Est-ce que tu as trouvé une armoire où vous remettez tout sous clé quand il faut laisser la maison ? Est-ce que vous avez commencé peut-être déjà à enlever quelques effets personnels ? Est-ce qu'il y a une pièce qui est condamnée dans laquelle vous laisserez vos affaires ?
Alors, écoute, pour être tout à fait franche, je loue déjà assez régulièrement mon appartement à Paris quand j'y suis pas, en Airbnb. Plusieurs années. Et moi, j'ai un peu pris le parti de laisser mes affaires perso. Enfin, tu vois qu'il y a une espèce d'échange de confiance où les gens, tu vois, il reste de la nourriture dans les placards ou du café, tu vois, on a nos affaires personnelles. Enfin, c'est vraiment, t'arrives dans un lieu qui est vivant. Et en fait, on a eu énormément de retours positifs parce que du coup, les gens adorent arriver dans un environnement comme ça qui est habité, où tu sens qu'il y a un rapport de confiance et que c'est pas juste un truc qui a été fait pour louer à outrance, etc. Donc en fait, ça marche hyper bien. Et en fait, tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, mais t'as pas peur qu'ils te volent, je sais pas, tes pulls, tes livres, tu vois. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est que les gens, ils te laissent des cadeaux. Enfin, nous, jusqu'à présent, on n'a eu aucun souci. Les gens nous laissent des cadeaux, ils nous achètent des fleurs, ils nous laissent des chocolats, tu vois. Et du coup, je me suis dit, dans le perche, j'aimerais vraiment qu'on fasse un peu, qu'il y ait cette même dynamique, tu vois, de dire, évidemment, on va pas laisser, tu vois, si on a une montre de valeur ou un, tu vois, ça, tu le prends avec toi. Mais en fait, on aimerait aussi que la maison, elle soit habitée, et quand t'arrives, les propriétaires mettent pas tout sous clé, tu vois, tu peux profiter de ce qu'il y a sur place, des épices, des livres, des jeux, de ce que les gens utilisent quand eux vont dans leur maison de campagne. Donc c'est un peu notre philosophie.
Ouais, qui est le témoignage aussi de la vie qu'il y a en dehors des locations. Pour juillet-août, tu t'es dit que tu louais à la semaine ? Un minimum de 7 nuitées d'office ?
Oui, en fait, on a eu pas mal de demandes et du coup, on s'est dit que pour le coup, ces 2 mois-là, on les louerait à la semaine parce qu'il y a beaucoup de demandes et du coup, les gens qui demandent pour un week-end, ça casse un peu Enfin, ça empêche d'autres personnes de venir passer une semaine. Forcément. Donc non, ouais, effectivement, ces deux mois-là, ils sont à la semaine.
Tu as regardé un petit peu ce qui se faisait autour de vous, s'il y avait d'autres gîtes, d'autres chambres d'hôtes, quels étaient justement leur fonctionnement au niveau des tarifs, des conditions, ou c'est vraiment pas un sujet, tu as envie de faire d'une telle manière et tu t'en fiches de ce qui se fait autour de vous.
Non, effectivement, on avait déjà regardé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au début des travaux, comme on ne pouvait pas y habiter, on avait nous-mêmes loué une maison qui était à 10 minutes, enfin qui était en gîte. Et d'ailleurs, on avait eu une très très mauvaise expérience parce que c'était une maison qui était... Pour le coup, c'était vraiment une... En fait, tu vois, la typologie d'une maison de famille que les gens ne veulent pas vendre, mais qu'en même temps, ils n'entretiennent pas, tu vois. Donc, on avait loué ça l'hiver et donc il y avait des jours autour des fenêtres. Il faisait vraiment 10 degrés dans la cuisine. Enfin, c'était l'enfer. Rien n'était optimisé, il y avait beaucoup, beaucoup de travaux à faire et on avait loué ça en plus une fortune, tu vois. Et c'est vrai que parfois, on y repense et quand on se dit non, mais attends, mais là, on est trop ci, on est trop ça. Après, on se dit non, mais tu te rappelles du truc qu'on avait loué. Et donc, du coup, ça nous donne déjà un peu, tu vois, un espèce de benchmark.
Un référentiel, ouais.
Exactement. Après, parce que nous, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de louer au juste prix et c'est pas toujours évident parce que, du coup, en même temps, tu. T'as pas envie de louer trop peu cher parce que du coup, sinon, t'attires des gens qui sont là et qui juste ne vont, tu vois, vont un peu ne pas prendre soin de ta maison. Et en même temps, on n'a pas envie de louer trop cher parce qu'on n'a pas non plus envie que ce soit réservé à une clientèle privilégiée. Donc, trouver le juste prix, c'est pas évident. Donc, on essaye de se baser aussi sur ce qui se fait autour de nous. On a regardé pas mal les prix sur Airbnb, Abritel, etc. On a essayé de se positionner, ce qui nous semblait... le plus juste, mais c'est vrai que c'est pas évident.
Oui, tout à fait. Mais c'est bien parce qu'il faut quand même être conscient de ce qu'il y a alentour. Et puis peut-être aussi, tu travailleras avec d'autres gîtes pour se renvoyer la clientèle. Si l'un est complet, on peut héberger dans l'autre ou pour compléter des fois sur des grandes capacités. Ça peut être hyper intéressant aussi de se présenter auprès d'eux. Est-ce que, étant donné que tu privilégies d'abord la réservation en direct, est-ce que tu te prévois un temps donné par jour, par semaine, sur la communication, sur la promotion de la maison?
Je ne me prévois pas de temps vraiment dédié dans mon calendrier, mais comme c'est un truc qui fait un peu partie de mon quotidien, en fait, je le fais parce que j'aime bien le faire. Hein. Donc, de temps à autre, tu vois, tous les deux jours, je me dis, ah tiens, je vais poster un truc sur la maison, ou je vais... Et donc, du coup, ça se fait un peu naturellement. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même soigner sur le long terme. C'est comme tout, tu vois, il faut qu'il y ait de la récurrence, que tu postes régulièrement, etc. Donc, comme je l'ai fait pendant les travaux, là, je continue à le faire maintenant que c'est fini pour donner un peu d'informations sur comment ça se passe, de répondre aux questions au maximum, tu vois. Mais je pense que c'est important, en tout cas, de publier et d'échanger régulièrement.
Oui, tout à fait. Est-ce que tu prévois de travailler avec une photographe ou un photographe professionnel?
Comme j'aime beaucoup la photo moi-même, pour l'instant, c'est vrai que ça reste mes photos. Mais on me l'a déjà proposé, donc voilà, je sais pas pour l'instant. L'architecte nous a aussi proposé de venir faire des photos. On a quelqu'un qui est intéressé pour faire des shootings et qui nous a proposé aussi de venir faire des photos. Pour l'instant, on a mis un peu en stand-by, mais peut-être qu'à terme, quand on aura vraiment finalisé la décoration, parce que là, pour l'instant, c'est fini, mais il reste encore quelques petits détails de déco à fignoler. Mais peut-être, on ne l'exclut pas, mais pour l'instant, on se suffit de nos propres photos.
Qu'est-ce que tu appréhendes avec l'ouverture justement de la maison à d'autres personnes?
Alors déjà, moi, je suis stressée de nature. Donc, quand t'as une maison, c'est vraiment pas le truc à faire parce que une maison, c'est stressant en fait. Surtout une vieille maison, tu vois. Enfin, ça m'arrive hyper souvent de voir une fissure et de me dire, mais elle était pas là cette fissure. Ou
tu vois. Tu la mesures.
Où il y a pas longtemps, on a eu une énorme tempête et donc, du coup, je sais plus, il y avait un peu d'eau qui est rentrée. Donc, pareil, tu vois, tu te fais. Enfin, en fait, une maison, c'est vraiment une source de stress. Donc, déjà, même sans la louer. C'est hyper stressant parce que tout, en plus c'est vivant, donc tout bouge en permanence, surtout les vieilles bâtisses comme ça. Là c'est une longère avec une charpente en bois, donc tu vois, l'été, l'hiver, etc., ça bouge, donc il y a tout le temps des choses auxquelles il faut penser. Donc déjà c'est un peu stressant de nature, et en plus quand tu la loues, je pense que Tu vois, moi, mes craintes, ça va être mais attends, mais est-ce qu'ils ont bien éteint le truc en allant se coucher? Est-ce qu'ils n'ont pas gratté sur le béton ciré? Est-ce que. Tu sais, pas, des trucs idiots, mais tu vois que toi, comme c'est ta maison, tu y fais attention. Et quand tu la loues, je pense qu'effectivement, il y a plein de petits trucs du quotidien où. Après, il faut lâcher, tu vois. Je veux dire, j'espère qu'ils n'ont pas oublié d'éteindre des bougies en allant se coucher, etc. Tu vois. Mais bon, je pense qu'à ouais, un moment, il faut juste dire, écoute, voilà, là, on la loue, on n'est pas dedans. Donc,
Oui, l'idée, c'est pas de se rendre malade, ce serait trop dommage, ouais. Effectivement. Mais ça, il y a le temps va jouer aussi sur le recul et lâcher prise. Et je l'espère, les super bonnes surprises que tu auras après chaque location qui vont te rassurer et te permettre de gagner en confiance aussi.
Oui, et puis surtout, je pense qu'en fait, il faut se faire à l'idée. Enfin, moi, je me le dis de plus en plus. C'est de dire, là, ta maison, elle n'a pas vraiment vécu, donc elle est nickel, mais c'est une maison qui est destinée à vivre. Donc oui, il va y avoir des rayures, il va y avoir des éclats de peinture. Enfin, en fait, je pense qu'il faut juste se faire aussi à l'idée que bah, quand tu reçois du monde et que les gens vivent et passent des moments dans ta maison, c'est obligé qu'il y ait des traces de ce passage.
Tout à fait. Et qui arriverait, même si c'était ta famille et que ce serait...
Exactement.
Si c'était le temps d'un week-end avec les petits cousins, les neveux, ouais. Les nièces, etc. Quelles sont les principales leçons que tu retiens de votre parcours de rénovation et jusqu'à aujourd'hui?
Alors moi, j'ai trouvé que c'était une... Tout le monde n'aura pas la chance de faire ça, mais que c'était une vraie thérapie, tu vois. Enfin, c'est vraiment la même utilité que faire un coaching ou tu vois, parce que...
Ah ouais,
ouais exactement, tu vois. Je trouve vraiment que la phase travaux, déjà, ça t'apprend énormément sur toi.
Mm-hmm.
Enfin, moi, j'ai vraiment découvert, tu vois, des capacités à, tu vois, à lâcher prise. Bah, en fait, il y a juste des situations où tu n'as pas le choix. Donc, en fait, il faut y aller, il faut aller chercher la ressource en toi pour continuer, pour pas lâcher, etc. Donc, vraiment, sur ce côté-là, je trouve que ça t'apprend énormément sur toi. Et dans ma vie perso, maintenant, tu vois, il y a plein de situations où je me dis, attends, tu te rappelles cette situation-là pendant les travaux. Voilà, à un moment, tu y es allé, t'as pas réfléchi, ça s'est bien passé. Applique-toi les mêmes règles dans ta vie quotidienne, tu vois. Donc ça, c'était hyper cool. Sur la question du couple aussi, je trouve que il y a beaucoup de gens qui nous disaient, ah, mais ça va être l'enfer, il y a plein de couples qui se séparent en faisant des travaux, etc. Je trouve que également, tu vois, ça te permet de mieux te connaître aussi avec la personne avec qui tu vis, comment tu fonctionnes, parce qu'en fait, il y a quand même, à moins que tu aies pris un archi, un maître d'œuvre, que tu fasses rien toi-même, et encore, tu vois, t'es quand même soumis à des situations de stress, à des, tu vois, de stress financier, de stress, logistique, matériel, etc. Tu vois, et du coup, il faut savoir comment l'autre réagit, comment tu réagis ensemble. Et je comprends maintenant que des gens me disent, en fait, je me suis séparée à cause des travaux. Tu vois, avant, ça me faisait rigoler. Et maintenant, je me dis, mais je peux le comprendre parce que c'est, tu vois, pendant des mois, tu es soumis à un stress et il faut, avec l'autre, tu vois, savoir interagir calmement, etc. Donc ça, c'était aussi une chouette épreuve. Enfin, pour le coup, nous, qui nous a pas mal renforcés. Et après, tu vois, il y a aussi le côté... Enfin, moi, j'avais tout le temps bossé dans un bureau, tu vois. J'avais fait des grandes études et puis après, j'avais rien fait vraiment de mes mains. Et là, de te dire, pendant plus d'un an, j'ai quand même... Enfin, j'ai réussi à créer une maison, tu vois. Enfin, je sais comment les murs sont faits, je sais comment l'électricité est faite, je sais comment ce sol est fait. Enfin, tu vois, il y a une forme de fierté de dire, je sais construire une maison avec mes mains. Et donc, ça, c'était aussi... hyper satisfaisant.
Mais il faut moi je trouve ça génial que tu l'admettes parce que souvent je trouve que les gens se valorisent pas assez et arrivent pas à justement voir tout ce qu'ils ont accompli et se féliciter eux-mêmes de tout ce qu'ils ont réalisé. Et pour rebondir sur le fait qu'effectivement ça peut éprouver le couple ou au sens plus large la famille même, c'est qu'effectivement on est tous en dehors de sa zone de confort et voilà, on se redécouvre aussi à travers ces épreuves-là.
Exactement.
Donc, des fois ça peut créer des brèches, des fois ça peut au contraire encore plus solidifier, mais c'est bien aussi de garder en tête qu'il faut maintenir une bonne communication et rester bien en lien avec son partenaire, son ou sa partenaire.
Ouais, non, c'est un vrai sujet. Hein. Mm. Et surtout, une dernière chose, c'est que je pense que le fait de ne rien connaître, tu vois, il y a plein de gens qui disent « mais moi, je pourrais jamais faire ce que tu as fait », mais en fait, le fait de ne rien connaître, je pense que c'est aussi une force, tu vois, parce que du coup, tu y vas et tu regardes des vidéos sur YouTube, tu documentes, enfin tu vas demander de l'aide à ton voisin, à chez Point P, enfin. Et en fait, bah juste ça marche. Alors oui, c'est pas aussi bien fait que quelqu'un qui a 10 ans de métier, mais en fait ça marche. Et donc, je pense que ça, c'est aussi une belle leçon que tu apprends de te dire, bah, en fait, j'y connais rien, mais c'est aussi une force. Et je pense que c'est vraiment une expérience qui est ouverte à tous, tu vois. Enfin, en fait, même si tu sais pas, aujourd'hui, tu n'as aucune notion, tu n'as jamais fait de travaux de ta vie, bah, c'est pas pour autant que tu n'en es pas capable.
Tout à fait, ouais. Il y a une certaine naïveté, mais qui te permet d'accomplir des choses que tu ferais pas en connaissance de cause, peut-être.
Ah, mais je pense que moi, si on m'avait dit tout ce qu'il y avait à faire, je l'aurais jamais fait.
Tu sais, il y a une expression, ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que...
Mais exactement, ouais, non, ouais. Mais c'est exactement ça. Tu vois, je pense que nous, si on nous avait dit, il faudra faire ça, 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 ouais. Je pense qu'on n'aurait jamais signé. Hein.
Non, c'est super.
On n'aurait jamais fait.
Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confrontée?
Je sais pas, il y en a eu tellement. Non, je pense que ça a été aussi peut-être de gérer le timing, le personnel et la pression financière, tu vois.
Tout en étant un peu à distance aussi quand même. Donc
c'est tout en que... étant à distance, de se dire, ok, bon là, le mec vient pas, celui-là, il nous demande 10 000 euros de plus que ce qui était prévu. Mm-hmm. Enfin, tu vois, c'est cette gestion de dire, bon, comment on fait pour pas paniquer, tu vois, comment on fait pour trouver des solutions. Ça, c'était assez difficile, effectivement, de gérer le truc pour que ça se passe bien. Et je te disais, on a eu vraiment un coup de mou l'année dernière à l'hiver où on s'est dit, en fait, ça aussi, c'est important, tu vois, parfois quand tu sens que tu vas lâcher, de se laisser tranquille. Tu vois, là, on s'est dit, en fait, je pense qu'on va arrêter d'y aller pendant 3 semaines, 1 mois parce qu'on va se dégoûter de cette maison. Et on a fait ce choix-là, tu vois. On s'est dit, non, là, si on continue, je pense qu'on va exploser en vol. Et donc, pendant 1 mois, on n'y est effectivement pas du tout allé. Et c'était la meilleure décision, je pense, qu'on ait prise parce que quand on est revenu, bah, tu vois, on s'était bien reposé, on avait bien soufflé et on repartait sur des bonnes bases avec un peu plus d'énergie parce que je pense que ça peut arriver. Et c'est assez difficile de lâcher, tu vois, tu te dis, bah non, j'ai pas envie de perdre 1 mois, etc. Mais je pense que parfois, quand t'es vraiment au bout, que rien n'avance, que rien ne marche, et que tu vois, tu sens que t'es en train de partir, il faut prendre la décision, tu vois, il faut se dire, attends, là, je mets en pause quelques semaines. Donc nous, ça nous est arrivé, et ça, c'est vrai que c'était un moment assez difficile, mais de le faire, ça nous a redonné un nouvel élan.
Il faut savoir se lâcher la grappe un petit peu, et se laisser du manque. Tu sais, c'est un peu comme en amour, où tu te dis, oh, on s'essouffle un peu, et puis si on se laisse un peu de manque, en fait, on se redécouvre, et ça redonne effectivement un coup de boost.
Ouais, ça, c'est un vrai conseil. Hein. Et t'entends vraiment, nous, on a beaucoup de témoignages autour de nous, tu vois, de gens qui peuvent plus voir leur maison en peinture parce que bah, ils y passent tout leur week-end, ça fait 3 ans qu'ils sont sur le truc. Et du coup, ça devient vraiment synonyme de contrainte, tu vois, ils n'y prennent plus aucun plaisir. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment le risque. Et donc, ouais, te laisser un peu tranquille quand tu sens que vraiment t'as plus envie, c'est pas très grave, tu vois, ça, c'est cyclique, ça reviendra.
Oui, changer d'air, je suis tout à fait d'accord. Quel est ton plus beau souvenir à ce jour?
Écoute, je crois que c'est l'année dernière, j'ai fêté mon anniversaire dans l'extension qui était encore en plein travaux. Mm-hmm. Mais tu vois, ma famille m'avait fait une super belle table avec des fleurs, des bougies, etc. Et c'était hyper chouette parce que du coup, rien n'était fait, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Mais du coup, ça reste un super souvenir parce que tu te dis aussi, en fait, il ne faut pas non plus attendre la fin pour profiter de chaque moment, tu vois. Tu peux aussi te faire des petits moments, même quand... Parce que les travaux, c'est long, tu vois, c'est un marathon, donc il ne faut pas non plus, tout donner et se dire, bah, on profitera dans 2 ans. En fait, c'était aussi cool de se dire, bah, attends, là, on va te faire un truc chouette, même si ce n'est pas fini, tu vois, on va faire en sorte que ce soit un moment qui reste aussi. Donc c'était vraiment un beau moment et du coup, ça nous a aussi... mis ça dans la tête de se dire, ok, on peut aussi se créer des petites parenthèses de kiff, même si en parallèle, on avance sur les travaux et que ce ne sera pas fini tout de suite.
Et pas attendre que ce soit parfait, parce que ça ne le sera jamais.
Ouais, c'est vrai.
Donc, il faut aussi se réjouir de chaque étape.
Ouais, c'est pas évident parce que tu as plus tendance à regarder ce qui n'est pas fait que ce que tu as fait.
Tout à fait. Ouais. c'est vrai que là, l'entourage peut aider, tu vois, à avoir un peu ce recul-là. et te faire relativiser, te dire non mais attends, il y a déjà tout ça qui a été fait, tu te rends compte, vous avez déjà accompli ci, ça, ah oui c'est vrai.
Et, c'est vrai, c'est vrai.
se réjouir. Alors je vole ta petite question rituelle pour te demander, Sarah, quel est ton conseil pour les gens qui ont envie de basculer?
Alors, bah, le premier conseil, c'est effectivement de se lancer, déjà, tu vois, de, si t'as envie, si t'as envie d'aller rénover un truc dans une région improbable, enfin, si tu sens que vraiment ça fait des années que t'as cette envie, je pense qu'à un moment, il faut se lancer, tu vois, et il faut arrêter d'écouter tous ceux qui te disent non, mais ça va être l'enfer, il y a plus si, les prix, les machins, et voilà, bon, à un moment, en fait, voilà, il faut aussi arrêter de réfléchir. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est que même si tu te lances, il faut quand même garder quelques trucs en tête. Tu vois, je te le disais, nous, quand on a acheté, il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout vues. Et je pense que ça aurait pu être très préjudiciable. Donc c'est, un, oser se lancer, mais deux, s'entourer. Tu vois, s'entourer de, quand tu visites, prendre effectivement, comme tu le disais, un entrepreneur. Enfin, tu vois, quelqu'un qui te guide pour pas avoir de mauvaises surprises en termes de temps, en termes de budget, etc. Donc ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui peut aussi t'aider sur le côté administratif, enfin voilà, donc s'entourer. Et troisième conseil, c'est effectivement de, je pense, de pas avoir peur de mettre aussi parfois un peu la main à la pâte, tu vois, de parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se croient pas capables de faire telle ou telle chose, mais en fait aujourd'hui avec internet, enfin t'as accès à tout, tu vois, tu vas sur YouTube, mais moi je me suis mis à suivre des comptes genre Joe le carreleur, enfin et tu te dis, mais il y a des comptes pour tout et n'importe quoi, enfin quoi que tu veuilles faire, voilà, c'est effectivement, de toute façon il y aura toujours des solutions, donc voilà, pas hésiter à se dire, bah si tel entrepreneur peut pas venir, etc., regarder ce qui est possible de faire, tu vois, et pas hésiter à se lancer soi dans le côté un peu pratique.
Ouais, utiliser les ressources aussi qu'il y a autour de soi, comme tu dis, demander de l'aide ou aller chercher l'info aussi, il y a tellement de mises à disposition maintenant, les podcasts, YouTube, même Instagram, tous les petites vidéos de ceux qui rénovent.
Exactement, t'as énormément de matière, et c'est vrai ce que tu dis, ça me permet de préciser que nous, il y a beaucoup de situations où des voisins sont venus nous aider, mais spontanément, et en fait... ça nous a hyper surpris parce que quand tu viens de Paris et en fait t'habites dans le même immeuble, mais tu connais pas tes voisins, tu vois. Et là, ouais, du coup, les gens venaient toquer et ils nous disaient, mais vous avez besoin d'aide pour faire ça, pour faire ci, etc. Donc tu vois, la show, on l'a fait avec nos voisins. Enfin, il y a plein de choses qu'on a fait avec nos voisins, mais parce que spontanément, ils viennent te donner un coup de main. Et ça, c'est vrai que ça me permet de rebondir sur ce que tu dis, mais ne pas hésiter à demander autour de soi, tu vois, des conseils ou de l'aide, etc. La plupart du temps, les gens, ils sont hyper contents de venir t'aider un samedi après-midi.
Et puis, il y a une forme de transmission aussi. Je pense que vous, ça vous arrivera aussi. Il y aura un nouveau voisin et vous irez spontanément toquer à sa porte pour lui dire, allez, on te monte la show, on maîtrise.
C'est exactement le cas, tu vois. C'est exactement ce qui se passe.
Ben, c'est trop bien. On arrive à la fin de notre échange. J'ai deux dernières questions. La première, c'est dans quel établissement tu aimerais séjourner, justement, faire une petite escapade le temps d'un week-end?
J'en ai plusieurs. Bah, Maison Balestou, comme je te le disais, j'ai toujours pas réussi à y aller.
Ah non, ah oui, fois, sacrilège.
Ça fait 10 fois qu'elle me dit d'y aller, je n'ai toujours pas trouvé le temps. Maison Le Détour, je ne sais pas si tu connais.
Bien sûr, j'ai interviewé aussi. J'ai interviewé Émilie et j'ai interviewé Pauline aussi et j'adore. Et elles sont amies aussi, je sais.
Oui, et bah, ouais. Du coup, Pauline, effectivement, c'est aussi une copine Instagram. Et pour le coup, j'y suis allée et c'est vraiment un chouette endroit. Y a Maison Sérone à côté de chez moi. Qui est, alors pour le coup, oui. je ne pourrais pas y séjourner parce que j'habite vraiment à 5 minutes. Chez Vincent, ouais, voilà, qui incroyable. A vraiment fait un truc sublime. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, après, attends, j'ai une adresse, faut que je me rappelle du nom. À côté de Marseille, une adresse hyper chouette, peut-être que tu vas m'aider. Des chambres d'hôtes et en même temps, il y a un petit coffee shop.
Ah, c'est Maison Acacia à La Ciotat?
Oui, merci.
Léa et Tom, ouais.
Et exactement, donc là aussi, ça c'est dans mes petites adresses, il faut que j'y aille. Non, et dans le Perche aussi, à côté de chez moi, Casa Rosalie aussi, qui est hyper chouette, des petits habitats avec des petites maisons en bois, etc. Pareil, il faut qu'on se rencontre et tout, ça a l'air vraiment génial.
Sublime ce projet. Normalement, je vais les interviewer, je crois, si ça se confirme.
Ah bah, trop chouette.
Ce serait super. Et ma toute dernière question pour finir en musique, c'est quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de la maison French Bontemps ?
Eh bien, je dirais du coup Nina Simone, Feeling Good.
Excellent, on adore. Eh bien, écoute, un grand merci, Sarah. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi et de découvrir plus en détail l'histoire de ces travaux, de cette magnifique maison. Toutes les coordonnées sont dans les notes de l'épisode. Et comme je disais, on peut retrouver soit le podcast, soit la newsletter, le blog, le livre. Est-ce qu'il y a d'autres livres en prévision, peut-être ?
Alors non, pas d'autres livres. Peut-être des guides. À voir. Voilà, c'est dans les tuyaux.
Ah, trop bien, on a hâte de voir ça. Ben écoute, un grand merci et puis je te laisse le mot de la fin.
Écoute, non, je suis ravie en tout cas d'avoir passé ce temps avec toi, Laura. J'espère avoir pu donner envie aux gens qui ont envie de se lancer dans la rénovation, dans la location, dans l'aventure de manière générale, de l'accueil et des travaux, d'avoir envie de se lancer. Voilà, enfin, j'espère qu'en m'écoutant, ils vont se dire, bon, bah, si elle l'a fait, c'est que c'était faisable. En tout cas, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer, d'oser se lancer. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Ça ne va pas être facile, hein, ça ne va pas être facile tous les jours, mais je pense que c'est vraiment à la portée de tous. Et donc voilà, si vous avez une envie ou quelque chose qui vous trotte dans la tête, bah, il ne faut pas hésiter à y aller.
C'est parfait. Un grand merci et à bientôt.
Merci à toi, à bientôt.
Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée! It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.